Erotico, le podcast locaux de tous les désirs.
Bonjour Julie Benegmos, merci d'avoir répondu à l'appel d'Erotico, une coproduction du web magazine locaux.fr et de la radio L'Écho des Garrigues. Julie, tu as 38 ans, tu es metteuse en scène et comédienne et tu vis à Montpellier. Avec ta complice Marion Coutarel, tu as mis en scène et tu interprètes le spectacle Strip au risque d'aimer ça, que vous avez joué au Chiasma de Castelnau-le-Lez, au Théâtre 13 à Paris, à la Cigalière, à Sérignan. Je crois aussi que vous l'avez joué à Toulouse, à Tours, à Sète. Et bientôt, vous le jouerez sans doute à Nantes, à Narbonne, à Nice. Ce très très beau spectacle interroge la pratique du striptease à partir de ta propre expérience, mais sans s'y limiter, on y reviendra. Une expérience qui s'inscrit dans un parcours artistique d'ores et déjà très riche. Tu peux nous résumer ce parcours en quelques mots ?
Oui, alors moi j'ai commencé par faire des études en architecture. Donc j'ai d'abord été architecte et de là je suis rentrée dans le milieu du cinéma en tant que décoratrice, assistante décoratrice sur des tournages. Et puis, j'ai commencé à écrire mes propres projets de films. Donc, j'ai d'abord fait du court-métrage et puis du documentaire. Et de là, je suis aussi rentrée dans le milieu du théâtre par la scénographie, donc toujours par le décor. Et voilà, et pareil, j'ai développé ensuite mes propres projets de théâtre et j'ai créé la compagnie Libre Cours ici à Montpellier il y a 7 ans.
Et dans ce parcours, à un moment, il y a la pratique du striptease qui est, tu es venu pour une question justement liée à tes droits en tant qu'intermittente du spectacle. Tu avais besoin de cachets pour valider tes droits et tu cherchais, donc tu regardais des annonces, c'est
ouais,
ça?
Oui, j'ai regardé une annonce sur Internet et en fait, il y avait une annonce de casting pour un théâtre et voilà, en fait, c'était un théâtre érotique.
D'accord, c'était il y a combien d'années?
C'était juste avant d'arriver à Montpellier aussi, il y a 7 ou 8 ans.
D'accord. Et quand tu vois cette annonce, tu te doutes de rien? Qu'est-ce que tu t'imagines juste à la lecture de l'annonce? Je ne sais pas ce que cette annonce disait.
Non, c'était assez vague. Ils cherchaient des comédiennes et des danseuses, donc ce n'était pas hyper précis dans la recherche. Et puis, du coup, j'ai envoyé un CV, en fait. Et on m'a rappelé, on m'a demandé si je voulais passer au théâtre.
On ne te donnait pas de précision. Et toi, tu avais pratiqué la danse à l'époque ou pas du tout?
Non, pas du tout.
D'accord. Alors, tu arrives dans cette boîte qui s'appelait le Théâtre...
Le Théâtre Chochotte.
D'accord, à Paris, dans le 6e arrondissement, rue Saint-André-des-Arts, la bien nommée, près de la place Saint-Michel. Et quelles sont tes premières impressions quand tu découvres, je ne sais pas, déjà la façade du théâtre? Est-ce que tu te dis, ah, on touche à quelque chose peut-être qui va aller du côté de l'érotisme?
Bah, même la façade est assez énigmatique. En fait, c'est une vitrine dans laquelle il y a un buste de femme, mais on se rend pas compte tout de suite de ce qui se passe à l'intérieur, en fait. C'est assez caché comme lieu. Et puis ensuite, voilà, on rentre, il y a un petit couloir avec l'accueil, avec quelqu'un qui est là. Et c'est pareil, on voit pas tout de suite ce qui se passe parce qu'en fait, il faut descendre un escalier. On arrive dans une petite salle et c'est dans cette salle en fait qu'il y a les danseuses avec les clients. Mais en fait, quand on entre comme ça au départ, on comprend pas exactement où on est et qu'est-ce qui se passe dans ce lieu. Ouais, c'est assez mystérieux.
Et c'est quand que tu as compris? C'est quand tu as parlé avec la patronne, quand elle t'a expliqué?
J'ai compris au moment où, en fait, la première fois que j'y suis allée, elle m'a dit, bah écoute, est-ce que tu veux regarder? Et du coup, elle m'a proposé de regarder le spectacle. Et du coup, c'est en m'asseyant avec le public que j'ai compris que c'était du striptease, en fait.
Tu étais assis, il y avait beaucoup de public? C'était un public?
Non, c'était un midi, il y avait 2 personnes, je pense, dans la salle.
Des hommes ou...
2 hommes, ouais.
Et tu te sentais comment? Tu te sentais tout à fait à l'aise ou tu te sentais un peu inquiète?
Inquiète, non. Je me sentais pas inquiète, je trouvais que j'étais curieuse en fait. Et puis j'ai trouvé que, enfin, ce que j'ai vu ce jour-là, c'était très beau. C'était une fille qui dansait, mais d'une façon très très poétique, très douce. C'était pas vulgaire, c'était pas obscène, c'était pas c'était tout sauf ce que j'avais comme image stéréotypée du striptease, en fait.
Tu n'avais jamais vu de spectacle en vrai de
Non.
striptease.
Non.
Et tout de suite, tu t'es dit, oui, ça c'est dans mes cordes, je pourrais faire ça.
Non, j'ai hésité.
Longtemps?
J'ai pris le temps de réfléchir, je crois, une dizaine de jours avant d'y retourner et de dire que je voulais essayer, ouais.
Ce qui t'a décidé, c'est uniquement le besoin d'avoir ces cachets pour valider tes droits, ou est-ce que tu as quand même ressenti une curiosité artistique et ou érotique?
Je crois que j'avais une curiosité, mais plus des pas tant artistique finalement, mais humaine. Je voulais, j'avais envie de rencontrer ces filles. J'avais envie de voir qui elles étaient. J'avais envie de comprendre. J'étais curieuse de savoir ce qui se passait exactement et comment on arrivait là, quoi. Enfin, je me disais, est-ce que finalement c'est toutes comme moi par hasard, ou est-ce que c'est autre chose qui t'amène à faire ça? Non, je crois que c'était vraiment la curiosité de découvrir le milieu, en fait.
Et comment se passe la première fois, en fait, que tu montes sur scène? Là, tu as un trac, peut-être, mais est-ce que c'est un trac qui est semblable à celui que tu aurais pour n'importe quelle pièce? Ou on se dit, comme il y a de la nudité, est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire, un trac supplémentaire?
C'est pas le même trac. Le trac quand je monte sur scène aujourd'hui pour un spectacle, c'est le trac de rater un truc, de faire quelque chose, enfin d'oublier mon texte, d'être pas là au moment présent et du coup d'être absente au plateau. Enfin voilà, là le trac au Chauchotte la première fois, c'est plus un trac de qu'est-ce que ça va me provoquer d'être nue sur scène devant des gens. C'est plus une appréhension émotionnelle de qu'est-ce que ça va me faire et est-ce qu'en fait ça va me plaire ou pas, ou est-ce que ça va me déstabiliser complètement ou pas. C'est plus ça, le trac, enfin, à ce moment-là.
Justement, comment ça s'est passé cette première fois? Qu'est-ce que tu as ressenti?
En fait, c'était assez, comment dire, il n'y avait pas beaucoup de monde en fait dans la salle aussi la première fois, et du coup je crois que je me suis sentie assez libre, quoi. J'étais pas ça va très vite en fait, c'est quand même assez rapide, et puis on sait pas exactement ce qu'on fait, enfin tout est un peu j'ai l'impression que c'est un peu comme toutes les premières fois. À la fois, c'est hyper intense et à la fois, c'est juste ça.
Tu t'étais entraîné chez toi, il faut, parce que concrètement, c'est une chorégraphie accompagnée d'une chanson et tu dois au début de la chanson, enfin j'imagine comment ça se passe, t'es tout habillé et à la fin de la chanson, tu dois être toute nue, c'est ça le principe?
C'est ça le principe. Ce qui est particulier au théâtre, dans ce théâtre, c'est que ce sont les filles qui choisissent leur propre musique et qui choisissent aussi ce qu'elles font dessus. Donc très vite, enfin moi je me suis très vite rendu compte qu'en fait c'était très libre dans ce qu'on avait la possibilité de faire et qu'on avait aussi la possibilité, par exemple, de pas choisir de musique du tout, mais de lire un texte ou de réciter quelque chose ou de et du coup c'est là que c'est devenu en fait intéressant aussi, c'est que c'est devenu intéressant dans les possibles à imaginer de comment on se dénude et pas forcément de ce que les gens attendent de voir, mais de quelque chose que ils vont être surpris de voir.
D'accord. Donc toi, tu as l'esprit la surprise, l'élément de surprise. Tu as envie de surprendre le public. Tu n'es pas obnubilé par l'idée, bon, moi, il faut que j'excite ce public parce que tes revenus, j'imagine, en dépendent. Enfin, je ne sais pas comment, si tu pourrais expliquer un peu le fonctionnement économique aussi du théâtre Chauchotte et des clubs de striptease en général.
Après, le théâtre Chaussotte, c'est quand même particulier. Ce n'est pas un bar, ce n'est pas un club. Les filles, elles ne vendent pas des bouteilles de champagne. Elles sont pas payées à ce qu'elles vendent comme alcool. Elles sont payées tous les soirs en cash, un fixe qui est de 80 euros. Et après, si elles font des salons privés, il y a une somme qui est reversée de ce qu'elles négocient avec les clients. Donc, c'est... C'est pas tout à fait la même chose que dans les clubs dans les bars à striptease où en fait les filles dansent toute la nuit sur le bar et qu'elles essayent en fait de faire boire les gens. Ce qui crée pas la même ambiance en fait, ce qui crée pas le même soutien et la même connivence entre les filles en fait. Il y en a un où en fait les filles sont clairement en compétition les unes contre les autres. Et au Chauchotte, les filles se soutiennent. Il n'y a pas de... C'est moins...
On reviendra au fonctionnement, c'est vrai, de cette camaraderie qu'il y a entre les filles. Pour parler de la dimension économique, justement, donc il faudrait que tu nous expliques ces fameux salons privés. Parce que le but, j'imagine, si on est juste dans la logique économique, c'est tu passes sur la scène normale et il faut donner envie aux clients de te demander pour le salon privé. Donc, il faut les séduire d'une certaine façon. Et tu as ça en tête quand tu prépares ton numéro, que tu aies choisi de lire un texte ou que tu aies choisi, tu le dis dans le spectacle, hein, ce passionnant spectacle, tu dis... À un moment donné, je suis allé avec une guitare. J'ai essayé de... Et puis, tu t'es rendu compte que ce n'était pas très pratique de te dénuder tout en jouant de la guitare.
Bah, en fait, c'est ça. C'est que je crois que rapidement, tu prends conscience que... Et c'est ça qui est assez beau, finalement. C'est que séduire les gens, c'est pas forcément les séduire j'ai envie de dire que c'est compliqué, mais en fait c'est pas être sexy, c'est pas séduire les gens finalement. En fait, ce qui séduit les gens parfois, c'est la vulnérabilité, c'est ce que tu laisses découvrir de tes émotions, c'est ce que tu laisses transparaître de fragilité chez toi. C'est ça qui séduit les gens en fait. En fait les gens sont séduits par plein de choses différentes. Mais ils ne sont pas forcément séduits par ce qu'on nous montre dans les films. Ils ne sont pas forcément séduits par un côté... c'est pas forcément ni le corps, ni une danse ultra-sexualisée qui va séduire un client. C'est la profondeur de l'âme, par exemple. Mais ça, on le comprend que quand on expérimente la chose.
Et donc, et en lien avec... Tu as utilisé le mot « vulnérabilité ». Et moi, une question que je me posais, c'est cette sensation de vulnérabilité que tu as peut-être tout le temps, peut-être plus au début. Tu as assez combien de temps au Chauchotte ?
J'ai resté 3 mois.
3 mois. Et donc, cette sensation de vulnérabilité liée, on imagine, au fait d'être nu, même si il y a un autre point très intéressant dans le spectacle, vous citez l'essayiste Anne Dufour-Mantel, et là, je vais paraphraser... une de ces citations, la ludité, c'est quelque chose en fait qu'on ne peut pas saisir. Hein? Et donc, c'est une vraie fausse vulnérabilité. Mais elle est là et on peut se dire, il y a cette vulnérabilité, mais il y a d'un autre côté une espèce de pouvoir que tu as peut-être sur les hommes ou les clients qui sont assis. Puisque c'est toi... Le pouvoir, il est lié justement en fait à la vulnérabilité ou c'est deux choses différentes ?
Moi, je crois qu'il est lié à l'inaccessibilité, le pouvoir. Le pouvoir, il est lié au fait que tu es intouchable et que du coup, tu te sens forte parce que tu as ce pouvoir de domination qui est clairement lié au fait ils sont en face de toi, ils te voient nu, mais ils peuvent rien faire, ni contre toi. Enfin, je veux dire, c'est, tu sais que t'as un pouvoir sur eux parce que tu sais que t'es intouchable.
Et tu penses que ça motive certaines filles ou que du moins ça leur apporte quand elles font ce travail, ça peut guérir ou soigner ou simplement renforcer la confiance en soi d'une certaine façon, que justement, est-ce que ça pourrait, ce type de métier pourrait attirer des filles ou des garçons dans le cadre des clubs pour, où les garçons dansent, qui quelque part, c'est très positif. Donc ça les renforce plutôt que de les justement les rendre vulnérables.
Bah, je crois que ça fait les deux. En fait, je crois que c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est qu'il y a des soirs où tu te sens hyper fort parce qu'en fait, il se passe quelque chose où d'un seul coup, tu as le sentiment de, t'as un sentiment de puissance qui se dégage de par ta présence, de par ta facilité à capter l'attention des gens ou des choses comme ça. Et puis, tu as des soirs où en fait, c'est l'inverse qui se produit et où d'un seul coup, tu te sens très fragile. Pas du tout assuré.
C'est à cause du regard des clients ou c'est quelque chose qui vient à l'intérieur de toi ou c'est quelque chose qui te de ce, ça vient de ce que te renvoient les clients présents ce soir-là. Si tu sens que dans leur regard il n'y a pas ce qui pourrait te donner cette confiance.
Je pense qu'en fait les autres sont le miroir de ce que tu dégages aussi. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui se nourrit en fait entre les spectateurs et celui ou celle qui fait la performance. Et je pense qu'il y a des soirs où tu arrives avec une certaine énergie. Il y a des soirs, c'est pas la même. C'est comme un comédien, c'est comme un acteur en fait. C'est vraiment ça dépend de ce que tu vis, de ce que tu ressens, de comment tu arrives dans le lieu, de comment tu t'es préparé.
Et justement, comment tu, dans ce lieu, combien de fois par semaine tu y allais? Quel était le rythme de travail en fait, pendant ces 3 mois?
C'est un peu toi qui choisis en fait. Donc si tu veux travailler tous les jours, tu peux travailler tous les jours. Si tu veux être là un jour sur deux, tu peux être un jour sur deux. C'est...
Toi, tu choisissais, quel était ton rythme, toi?
Je crois que ça changeait un peu. C'était pas très régulier.
Ouais.
Mais il y a des jours, par exemple, où j'ai travaillé de midi à 1h du matin. Il y a des jours où j'ai travaillé tous les jours de la semaine. Il y a des fois où j'ai travaillé que 2 jours par semaine. Ça dépendait de, justement, je crois, de mon état, de mon envie, de ma fatigue. En fait, c'est hyper fatigant. Et émotionnellement, et physiquement. En fait, de tenir, enfin, de danser, en fait, ou de performer, même de midi à 6h du soir, ben, c'est énorme.
Et comment fonctionnent ces salons privés? Donc, tu fais une danse sur scène et après, éventuellement, des clients viennent te voir et te disent « Mademoiselle, Madame... »
Ils ne viennent pas te voir directement.
C'est toi?
Ils passent à l'accueil.
Ah.
Et ils disent « J'aimerais un salon privé avec telle fille. » Et là, c'est le mec de l'accueil qui va te chercher dans les loges et qui dit « Il y a un salon privé pour toi. »
Et à quel moment se négocie le tarif du salon privé et avec
Il y a un
qui
tarif fixe pour les, je ne sais plus combien c'est, mais 10 minutes de départ. Et si la personne veut rester plus, c'est là qu'il y a un tarif qui se négocie. Mais il y a d'abord un tarif fixe à payer.
Et toi, tu peux refuser éventuellement ou pas?
Oui.
Ça t'est arrivé de refuser?
Non, ça ne m'est pas arrivé. Mais je sais que ça arrivait à certaines filles de refuser, ouais. Il y en avait qui ne faisaient pas non plus de salon du tout. Mais après, ça dépend des périodes. Ça dépend de l'humeur de la patronne, ça dépend de ce qu'elle a envie de...
Oui, il faudra en parler de cette patronne. Mais pour en revenir au salon, C'est intéressant dans le spectacle, tu mentionnes, il y a des caméras qui ne filment donc que toi, pour le numéro que tu vas faire dans le salon privé. Donc pendant ce temps, les clients, il n'y a que toi qui les vois, et eux, ils sont sagement assis. Est-ce qu'ils ont envie parfois de se toucher, je ne sais pas, ou est-ce qu'il y a plus d'interaction que dans la salle principale, est-ce qu'ils, ouais.
Bah, ce qui se passe en premier lieu, oui, c'est une rencontre. Parce qu'en fait, c'est deux êtres humains qui sont face à face et qui vont d'abord se parler, en fait. Donc, les premières questions, c'est pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'appelles? Pourquoi tu travailles ici? De quoi tu as besoin? Est-ce que... Le premier rapport, c'est un rapport humain de questionnement sur qui est la personne en face de toi. Et puis ensuite, il y a des gens qui viennent avec des demandes spécifiques. Il y en a d'autres qui ne savent pas pourquoi ils sont là et qui, du coup, continuent à parler et à poser des questions. Et puis, souvent, se livrer, en fait, raconter leur vie. Il y en a qui viennent clairement pour se branler. Ils sont là pour ça. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des gens... en fait, on ne sait jamais... Je crois qu'eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils sont là et qu'ils se laissent aussi porter parce qu'on leur propose ou parce qu'ils, d'un seul coup, en fait, leur vient. Je crois que même, il y a des hommes qui n'ont pas dans l'idée de faire des salons privés, mais qui, quand, sur scène, une femme les touche, ils vont avoir envie de faire un salon privé pour connaître qui est cette femme. Et en fait, c'est ça, en fait, ce moment où on touche au désir, c'est ça, c'est un désir de rencontre, en fait, humaine. C'est pas un... C'est atteindre ce qui nous interroge, ce qui nous rend curieux, ce qui nous attire, en fait, chez quelqu'un. Et en fait, ce qui va nous attirer, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend.
Et est-ce que toi, tu avais une forme de masque ou de blindage par rapport à ça, ou tu étais ouverte, par exemple, à une rencontre humaine? Est-ce que tu pourrais dire, ah bah, j'ai fait des belles rencontres, j'ai eu des échanges qui ont eu du sens pour moi, ou tu étais toujours avec une forme de distance? Et à l'inverse, est-ce que tu as eu des moments qui t'ont mis mal à l'aise? Comment tu réagissais, justement, quand tu dis, il y a des gars qui sont là juste pour se branler? Est-ce que tu arrivais à l'accepter, ou est-ce que c'était plutôt désagréable?
J'ai fait des très belles rencontres et y a même des gens avec qui je suis encore en contact qui sont restés des, je dirais pas des amis, mais en tout cas des gens avec qui j'ai pu lier des liens plus profonds. Et après, oui, il y a tous les cas de figure, finalement. Il y a des gens où ouais, je me suis sentie mal à l'aise et je me suis dit voilà, c'est relou. Il y a des gens qui te touchent, qui sont hyper émouvants. Il y a des gens qui t'attristent. Il y a des gens... et puis, il y a des gens... Il y a des gens, enfin, en fait, c'est ça qui est incroyable, finalement. C'est qu'en fait, il y a tout est possible dans la rencontre. On pourrait croire qu'il n'y a que des sales types qui viennent se branler ou qui ont des qui sont vicelards ou je sais pas quoi. Mais en fait, pas du tout. Il y a de tout. Il y en a des comme ça. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin de parler, des gens qui sont seuls, des hommes âgés qui ont besoin d'amour, des gens qui cherchent de la tendresse, des gens qui cherchent juste même un contact humain, en fait. Juste avoir quelqu'un à qui ils peuvent parler et puis qu'ils peuvent retrouver, en fait, une fois par semaine, par exemple. Il y a des habitués, il y a des mecs, ils viennent une fois tous les deux jours pour voir exactement la même fille. Et il n'y a que elles qui veulent voir.
Et il y a des... Parce qu'on se pose toujours la question, quand tu passes devant un bar à hôtesse, quand tu passes, alors le théâtre Chauchotte, dans Google, c'est classé comme club de divertissement pour adultes, ce qui est très large et tout ça. Et il y a toujours le soupçon que ce sont des endroits où potentiellement il y a de la prostitution. Est-ce que au théâtre Chauchotte, il y avait de la prostitution? Est-ce que certaines filles pouvaient, simplement pour gagner un peu plus d'argent, alors soit dans le théâtre, soit à l'extérieur, retrouver des clients pour aller plus loin? Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous parliez entre vous, ou c'était tabou, c'était très caché, ou c'était complètement interdit?
Alors, ce qui est dit par la patronne, c'est que on n'a pas le droit, enfin, je veux dire, c'est interdit de se faire toucher par un client. Donc ça, c'est ce qui est énoncé. Ou après, ce qui se passe dans les salons privés, c'est de toute façon pas contrôlé.
Malgré les caméras.
Malgré les caméras. Mais en fait, à partir du moment où la fille ramène plus d'argent, la patronne, est-ce qu'elle va regarder ce que chaque fille fait dans les salons? En fait, non. Donc après, c'est très... La limite, elle est très floue. Et elle reste très floue parce que ça arrange tout le monde. Et ce qui se passe dans les salons avec les clients... c'est un peu en fonction de ta propre limite, qu'il se passe ou non, qu'on arrive ou non vers la prostitution. Mais après, la prostitution, est-ce que se faire toucher les seins, c'est être une prostituée? Pour combien? À partir de quel tarif? Je veux dire, c'est quoi aussi qu'on définit comme étant de la prostitution? Est-ce qu'un mec qui se branle devant toi quand tu te déshabilles, c'est de la prostitution? C'est large.
Toi, tu te posais la question pendant que tu y étais. Tu t'es dit, bon, moi, j'ai des limites. C'est ça, ça. Ou finalement, c'est quelque chose qu'on découvre en faisant. Parce que j'imagine, voilà, on n'a pas réfléchi forcément à ces questions avant d'être là-bas. D'autant qu'officiellement, certaines choses sont pas censées se passer, mais elles se passent quand même. Donc, tu dois un peu naviguer à vue.
T'apprends à définir tes limites. Et en plus... tes limites, elles évoluent en fonction de qui t'as en face de toi, en fait, aussi. Et c'est ça qui est très étonnant à expérimenter. C'est qu'en fait, t'as pas les mêmes limites avec tout le monde. Et tes limites, elles sont... elles évoluent en même temps que toi.
Globalement, tu te sentais bien là-bas?
Ouais.
Et tu te sentais bien traité par la patronne?
Non.
Alors, c'est grâce... Alors, la patronne, qu'est-ce que tu lui reprochais?
La patronne, c'est une... Disons que ce qui lui est reproché, je crois que par vraiment toutes les filles, hein, y a pas une fille qui part de ce club sans s'être disputée avec la patronne, en fait. C'est une femme qui est très manipulatrice et qui joue sur l'emprise qu'elle a sur les filles. Donc en fait, elle joue avec elle séduit en fait les filles pour pouvoir les dominer. Et donc en fait, elle ment. Elle trahit, mais en même temps, c'est jamais sa faute, c'est pour ton bien, parce que tu lui dois bien ça, parce que elle te fait le cadeau que tu puisses travailler dans son lieu. C'est quelqu'un de très 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 manipulateur pour le coup. Pour le coup, elle est perverse.
Et elle avait été stripteaseuse elle-même?
Elle est stripteaseuse et dominatrice.
D'accord. Elle travaille encore. D'accord. Et malgré tout, tu dis, tu te sentais bien. Donc je pense, j'imagine que ça doit beaucoup à la camaraderie entre les filles. Est-ce que, je dis camaraderie, mais est-ce qu'il y avait aussi, parfois, tu nous as un peu parlé, de la jalousie? Alors pas forcément dans ce type d'environnement-là, mais quand même, ou est-ce qu'il y avait de la mesquinerie parfois? Ou est-ce que c'était vraiment globalement, vous vous souteniez?
Bah, après, je crois que tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Il y a quand même toujours des histoires de jalousie ou de. Mais globalement, il y avait beaucoup de soutien entre les filles, quoi. S'il y en avait une qui ne pouvait pas venir, il y en avait toujours une qui remplaçait. Quand on faisait des shows ensemble, il y avait. C'était toujours, mais attends, je vais t'aider, je vais t'expliquer à faire ça. Enfin, c'était quand même bienveillant entre les filles. Il n'y avait pas. On ne se faisait pas des sales coups, quoi, les unes envers les autres. Je pense que c'était important de se soutenir parce que ce que tu vis est déjà tellement fort, en fait, à gérer, je pense, que tu as quand même besoin d'être soutenu par ailleurs. Ouais, pour encaisser.
Et 7 ans plus tard, donc quand je ne sais pas comment t'es venu, enfin l'idée du spectacle, c'est une idée que tu avais depuis longtemps, ou tu t'es toujours dit, après avoir quitté le club, tu t'es dit, je veux un jour faire quelque chose à partir de cette expérience, créer quelque chose à partir de cette expérience, ou c'est peut-être plusieurs années plus tard, tu continues d'y penser, ou de penser à ce genre de métier, et tu t'es dit, ah, ça ferait un bon spectacle.
Bah, en fait, moi, quand j'ai quitté le lieu, j'étais très en colère parce que cette patronne, du coup, m'avait aussi trahie et j'avais un sentiment d'injustice très, très fort. Et du coup, j'ai essayé de me renseigner sur les droits qu'on avait pour pouvoir tout simplement me rendre justice, en fait. Et je me suis rendu compte que bah, on n'avait pas. Que c'était très compliqué et que c'était très compliqué parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de plaintes. En fait, tant que les filles se plaignent pas des conditions dans lesquelles elles travaillent, le métier changera pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben en fait, pour moi, c'était pas possible en fait je trouvais ça plus humiliant finalement d'être pas respectée par la personne qui nous embauche. Plutôt que de faire ce métier où on peut croire qu'on n'est pas respecté par les hommes. En fait, moi, c'était le respect dans le travail que je trouvais important. Et j'avais l'impression que le travail que j'avais fourni, il méritait d'être et honoré, et respecté, et reconnu. Donc je suis partie de là-bas très en colère et je crois que ce qui m'a encore plus choquée, c'est de voir que les filles qui bossaient avec moi n'avaient pas le courage ou la nécessité de se battre pour leurs droits. À ce moment-là, hein, ça fait 8 ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est différent et je pense que les filles avec qui j'ai travaillé aujourd'hui sont conscientes de ça et qu'aujourd'hui, elles me diraient, on y va, on va voir ce syndicat, on va choper des droits, on va. Mais à l'époque, et je pense que c'est aussi parce qu'on était plus jeune, il n'y avait pas cette conscience du juste pour le respect de nous-mêmes, en fait.
Et le syndicat dont tu parles, il s'appelle le STRAS. Et toi, tu les as contactés dans le cadre de la création de Strip au risque d'aimer ça. Notamment, vous avez fait une rencontre après le dernier spectacle que vous avez joué à Paris, avec un dialogue avec le public. Et tu as senti que le public aussi était concerné après avoir vu le spectacle. Il se met un peu, entre guillemets, dans la peau des stripteaseuses, et il se dit, ah ben ça, s'il faut que, oui, elles ont le droit et il faut qu'elles revendiquent des choses. Tu as senti que le public prenait fait et cause pour
Bah, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans le partage de cette expérience au théâtre, c'est que finalement, la parole qu'on donne est tellement authentique et humaine que je pense que le public parvient à se mettre à notre place. Et du coup, qu'il parvient à se poser des questions sur, en effet, pourquoi est-ce que je juge ce métier? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est normal qu'elles aient pas des droits? Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que ça devrait être interdit? Et du coup, tout ça, ça pose question au public et ils en ressortent, je pense, avec une autre image de ce que sont les femmes qui font ce genre de métier.
Tu parles de jugement. Est-ce que toi, tu as souffert de jugement à cause de ce travail que tu as fait? Tu dis notamment un moment dans la pièce, tu évoques ton petit ami de l'époque qui te dit « ce serait bien que tu ailles voir un psy, Julie, parce que c'est pas normal de vouloir susciter le désir ». Alors, est-ce que c'était parce qu'il avait des préjugés ou est-ce que c'était tout bêtement une forme de jalousie?
Je pense que c'était... Déjà, je pense qu'il avait le sentiment que c'était très dangereux. Donc, en fait, il y avait aussi cette peur qu'il m'arrive quelque chose de grave. Et oui, je pense qu'il y avait aussi de la jalousie, de l'incompréhension, de... C'était déroutant, en fait, d'un seul coup, de se dire... Et pourquoi est-ce qu'elle a envie de faire ça, quoi? C'était, je pense que quand tu connais pas le milieu, t'as tellement de stéréotypes violents en fait qui sont liés à ces métiers que c'est aberrant en fait de vouloir rentrer là-dedans.
Et aujourd'hui encore, même avec la pièce. Quand les gens qui viennent voir le spectacle, est-ce que tu as l'impression, ou les critiques, ou les institutions qui financent, je ne sais pas, le spectacle, est-ce que parfois tu sens ce regard de jugement? Ou est-ce que c'est souvent que tu le rencontres?
Non, je le sens. Je le sens même parfois après la pièce, même parfois quand j'en... Enfin... Après, ça, c'est marrant parce que dans le spectacle, en fait, on peut croire ce qu'on veut. On peut croire que j'ai jamais fait ça et que tout ça est faux. Et on peut croire que... Ou on peut croire que tout est vrai. Ou on peut croire qu'il y a des choses fausses et des choses vraies. Mais en fait, chacun, je pense, c'est pareil, met sa limite à l'endroit où elle est capable d'entendre. Et après, ce qui est intéressant, c'est que le spectacle repousse les limites chez les gens, mais en fait, il y a des gens qui juste peuvent pas entendre. Il y a des gens qui ressortent du spectacle, ils n'ont pas changé leur point de vue, mais parce que pour eux, une femme qui est travailleuse du sexe, c'est toujours une victime. Et
ouais.
Ça, c'est très compliqué à déconstruire comme image dans la société.
Et quand tu fais un striptease sur scène dans le cadre de la pièce, c'est strip au risque, donc au risque d'aimer ça, c'est complètement différent pour toi, ce que tu ressens toi, je veux dire, au moment où tu le fais, c'est complètement différent de ce que tu ressentais au théâtre Chauchotte ou du fait d'être dans un lieu qui est un club de divertissement pour adultes et du fait d'être dans un lieu qui est un théâtre, donc avec tout ce que ça implique de respectabilité. Est-ce que ça change ton ressenti?
Bah, ce qui est différent, c'est le rôle que j'ai sur scène, en fait. C'est que dans un lieu, c'est mon travail de me dénuder sur scène, et dans l'autre lieu, je suis comédienne qui se dénude sur scène. Donc c'est dans le cadre du spectacle qui est mis en scène et qui est travaillé artistiquement pour être une pièce de théâtre, pour être une œuvre, que je me mets nue. Mais dans l'autre lieu, le spectacle, c'est se mettre nu, parce que c'est ça le travail. Du coup, mon ressenti, il est très différent parce que j'ai pas le même rôle, simplement sur la scène à ce moment-là.
Et à la fin du spectacle, donc on évoque justement un rêve que vous avez, et moi justement, c'est intéressant, tu parles de toute la liberté que laisse votre spectacle au spectateur, et ça c'est vraiment une des grandes, grandes réussites de ce spectacle. Moi aussi, je regardais ces scènes, je savais que c'était autobiographique en partie, Et parfois, je me disais, ah, ça, est-ce que c'est une vraie anecdote ou pas, selon ce que j'étais prêt à croire ou non, à accepter du personnage, qui avait une forme d'innocence que tu amenais sur scène aussi. Si tu l'avais joué différemment, je l'aurais ressenti différemment. Et c'est ça qui est très intéressant, ce que ça suscite chez le spectateur. Et quand la pièce se termine, c'est sur justement ce rêve que vous avez, Marion Coutarel et toi, d'un club de striptease, d'une boîte de striptease qui serait un endroit très bienveillant. Et vous parlez de réunions que vous avez eues, de rencontres même avec des institutions pour financer ce type de lieu. Alors ça, j'ai envie de te demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste pour conclure joliment la pièce ou est-ce que vous avez vraiment un projet?
On a vraiment un projet. Alors, il y aura un lieu, mais qui ne sera pas forcément un strip club, mais qui sera un lieu dans lequel on organisera des soirées de ce genre. Et l'idée, c'est surtout que les femmes et les hommes, en fait, c'est de rétablir aussi une égalité dans la vision du corps nu. Et du coup, dans. En fait, il n'y a pas que le corps de la femme qui peut être objet de désir et de séduction. Mais qu'est-ce qui se passe si en fait on met les hommes au même endroit? Et qu'est-ce qui se passe aussi dans la vision des hommes eux-mêmes de ce qu'est leur corps et de leur érotisme et de leur possibilité de séduction et d'érotisme si du coup, d'un seul coup, ça s'équilibre? Et ça, je crois que c'est aussi une façon de déconstruire le patriarcat. Quelque part, je me dis que si on arrive à ce que les hommes eux-mêmes puissent avoir la réflexion qu'on a, nous, sur nos corps, et que eux, du coup, s'emparent de leur propre corps à montrer, comment est-ce que la société change à partir de ça?
Bien, j'espère vraiment que ce projet va se concrétiser. Je te remercie beaucoup, Julie Benegmos.
Merci.